Je voulais vous faire parler du féminin parce que quand vous, apparemment, quand vous avez vu le titre, enfin le thème de la rencontre, le féminin, Nicole, il paraît que tu étais un peu étonnée du titre, non, du thème. Et puis Nathalie, comment vous avez le mot féminin, féministe, comment vous déclinez ça, le genre alors on peut réfléchir ça de façon historique parce que tu étais beaucoup engagée de façon féministe, même si tu as eu si je veux pas déformer ton travail, mais il y a eu tout un travail sur le neutre. À un moment donné, tu travaillais sur le travail expérimental sur la langue qui était tout à fait différent depuis. Tu t'es après ça beaucoup plus engagée dans le féminin. Je pense que c'est pas tout à fait ton parcours, Nathanaël. Comment vous...
Ben, je pense que, alors là, c'est la problématique avec le mot féminin. Tout d'abord, neutre, le monde m'environne neutre, c'était vraiment la naïveté de la jeune poète de 20 ans, 22 ans, qui voulait travailler une écriture neutre. C'était un ridicule total, parce que il n'y a jamais de neutre. Le masculin occupe une énorme part, et il y avait... presque pas de féminin non plus, c'était tout le territoire était occupé, oui bien sûr, mais ben, tous les écrivains du nouveau roman, tous les écrivains de tel quel ont défendu le neutre, et il y a une dimension qui est intéressante aussi par contre liée à la notion de neutre, c'est que moi j'ai souvent dit que c'est la langue qui avait de l'imagination pour moi, que moi je n'avais pas d'imagination, mais que la langue en avait si je savais m'appliquer à l'aimer et à la faire se déployer de manière originale, c'est certain. Mais pour revenir à la question féministe, moi j'ai toujours dit c'est le travail de la... comme écrivaine, ce qui m'intéressait, c'est le travail de la conscience féministe. Comment cette conscience va-t-elle s'installer dans la langue? Qu'est-ce qu'elle va faire bouger? Qu'est-ce qu'elle va... Et quand j'ai résisté un peu à l'idée du féminin, c'est que je me disais, où on va tomber dans la tautologie, c'est-à-dire le féminin cliché, et ou bien on va parler des femmes, c'est très différent, ou on va parler de la posture féminine. Et la zone qui est la plus intéressante, c'est, en tant qu'écrivaine, c'est la posture féminine, qui est une posture de double contrainte. C'est souvent une posture qui exige, une certaine théâtralité aussi. C'est une posture que le philosophe Derrida voudrait bien prendre, parce que la posture elle-même, elle est intéressante et elle est très rentable. Mais le philosophe ne s'intéresse pas nécessairement aux femmes. Il s'intéresse au féminin, donc à la posture féminine qui est intellectuellement, philosophiquement, peut être très stimulante et rentable. Donc, il y a le féminin construit. Il y a la posture féminine qui est intenable, en fait. Et puis, il y a les femmes qui sont dans la réalité. Et quand on est féministe, on veut transformer les conditions de vie des femmes. Et on, bien sûr, la réflexion fait qu'on va s'attarder à la posture, on va essayer de trouver des réponses à la double contrainte, mais on va être obligé d'utiliser la double contrainte. Donc, on va avoir des traces dans l'écriture elle-même qui vont se jouer. Et... excusez-moi, je vais prendre un petit peu de temps, mais j'ai beaucoup pensé, lié au féminin, aux femmes surréalistes, aux femmes des surréalistes, mais aux femmes surréalistes, qui, elles, se sont trouvées dans une posture extrêmement difficile, parce que c'était toutes de très belles femmes, extrêmement intelligentes, et qui étaient toujours déplacées à cause du héros, que ce soit Man Ray, que ce soit Picasso, que ce soit Marx, Ernst, etc. Donc, elles étaient... remarginalisées du fait d'être avec des hommes, des artistes remarquables, et qui les ont traités de manière absolument terrible aussi dans leurs œuvres. Je pense à Hans Bellmer, etc. Donc, c'est comme si elles avaient été complices d'un mépris à leur égard, alors qu'elles ont essayé de trouver des mécanismes théâtraux, justement, carnavalesques, du maquillage, de transformation. Et elles-mêmes ont été de grandes photographes et d'excellentes peintres aussi. Mais je pense que c'est un très bon exemple qui traduit la posture, la difficulté de la posture du féminin. Ouais.
Je me rappelle une fois, on était, tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué. Tu m'as dit, j'ai ouvert la télévision ce matin, et puis je pense que c'était un truc du G20, où tu m'as dit, et j'ai vu qu'il n'y avait que des hommes en veste qui décidaient du monde. Hein, je me rappelle de ça. C'est une vérité, mais je veux dire, ça m'a surpris de voir aussi, parce que tu parles de théâtralité. La théâtralité masculine, on ne la voit pas, en fait. On fait comme si elle était neutre. Hein, voilà. S'habiller comme un homme, c'est neutre, alors que la théâtralité féminine, c'est tout ce qui déborde du neutre, du convenu, bon, etc.
Juste un dernier mot, c'est-à-dire que tout, mais pas la princesse. La princesse, qui est une forme de propagande constante de l'hétérosexualité, mais culturelle. Pas de l'hétérosexualité comme sexualité, mais comme culture du mariage et de la soumission dans le cadre du mariage, c'est ça.
Je pensais justement, en parlant de surréalisme, d'un exemple, enfin d'une personne qui se démarque remarquablement de cette tendance, et c'est justement Claude Cahun, qui s'est travesti, qui a adopté d'ailleurs des postures masculines qui ont fait flipper André Breton, qui ne savait pas du tout quoi en faire, qui a vécu avec sa demi-sœur, enfin elles ont travaillé ensemble, et d'ailleurs leur collaboration est très peu reconnue. Et qui a fait des photographies vraiment impressionnantes, et qui en plus, à deux, elles se sont de front, elles ont attaqué la Gestapo à the Isle of Jersey, l'île anglaise. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est rare quand même.
Ah oui, elle était exceptionnelle.
Tout à fait. Mais qui a grandi quand même dans un milieu très, très imprégné de littérature. Enfin, elle en était entourée et très privilégiée aussi. Mais pour revenir à la question du féminin, moi, j'y avais réfléchi un peu d'un autre abord, et c'était par rapport à la question de la traduction. Dans le sens où, à partir du moment où on sort des langues romanes, la question du genre, donc la question du féminin, mais qui est liée à la question du genre grammaticale, se transforme radicalement. Et donc, moi, par exemple, je vis à la fois en anglais et en français, et il y a des désaccords très fructueux et aussi terribles entre l'anglais et le français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une transposition simple d'une problématique de genre dans une langue ou dans l'autre. Par exemple, en anglais, pour prendre un exemple vraiment très simple, tout se focalise sur le pronom. Par exemple, on peut faire pas mal de manipulations au niveau du pronom, et il y a des milieux, il y a des revendications transgenres d'un troisième pronom, par exemple. Mais à partir du moment où on sort de l'anglais et on essaie d'intégrer ce genre de changement dans la langue française, on en a déjà parlé, toi et moi, on se retrouve face à un régime grammatical qui ne le permet pas. Parce que, à cause justement de l'accord grammatical. Alors, je me disais que le genre, en fait, un discours autour du genre, en laissant de côté un moment la question très réelle de la condition, des conditions de vie matérielles et pratiques, c'est une question qui se pose, en fait, de façon très hermétique. Parce que dès qu'on quitte la langue, même entre langues romanes, le problème se déplace. Et alors, on est toujours dans une espèce de mode de dérapage ou de glissement où la frontière sans cesse se redessine. Et donc, forcément, là je fais un bond assez grand, le désir, l'articulation du désir et la construction des corps. Et alors, où on se retrouve dans ça? Et puisque tu l'as déjà dit par lapsus, moi je vais le dire ouvertement. Moi, le passage, par exemple, de Nathalie, mon ancien prénom dont je me suis complètement débarrassée, à Nathanaël, la première interprétation qu'on donne à ça, et ce n'est pas une interprétation que je rejette du tout, est d'ordre, disons, politique. Évidemment, il y a un élément politique, mais il n'était pas question forcément pour moi de passer du féminin au masculin, même si j'ai adopté un nom masculin, un prénom masculin qui fonctionne aussi en tant que nom, puisque je me suis débarrassée du patronyme. Mais en fait, c'est un travail de traduction, parce qu'à l'intérieur de Nathanaël, il y a une espèce de résidu de l'ancien nom détruit, mais qui est quand même imprégné là-dedans. Et alors, il y a une espèce de, je ne sais pas, d'exfoliation qui a lieu. Et puis, dans la sonorité aussi, on en a parlé, puis j'allais dire peut-être un petit extrait qui démontre ça tout à l'heure. Ça porte à confusion, et de transposer ce nom masculin mais qui a une prononciation française dans un milieu anglophone, là encore il y a encore une forme d'étrangeté qui s'introduit. Mm-hmm. Et on ne reconnaît pas tout de suite quand on l'entend ce que ça peut représenter comme corps.